Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 30 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. À 3 mois de la COP27, l'Afrique crie à l'injustice climatique à l'ouverture hier à Libreville de la Semaine africaine du climat. En Éthiopie, armée et rebelles du Tigré s'affrontent en région de la Mara. À Madagascar, au moins 11 civils ont été tués après des tirs de gendarmes sur des habitants en colère. En Irak, reprise des combats à Bagdad, 23 morts depuis lundi. Contre-offensive ukrainienne dans le sud, une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour Zaporizhia. Au Brésil, mort du dernier indigène d'une tribu disparue. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Coup d'envoi hier matin à Libreville de la cérémonie officielle marquant la Semaine africaine du climat. Président l'ouverture de ce rendez-vous qui prépare la COP27 en Égypte, le dirigeant gabonais Ali Bongo Ondimba a dit regretter que la question climatique peine encore à fédérer les énergies. Il a souligné l'échec des négociations issues de la COP21 de Copenhague et parlé des engagements pris depuis lors par son pays. La Semaine africaine du climat réunit à Libreville environ 1000 participants issus d'une soixantaine de pays pour 3 jours fermes de discussion. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, a recueilli cette déclaration du président gabonais Ali Bongo Ondimba.
Les intérêts souverains de chaque pays ont prévalu sur l'intérêt général. Ainsi, j'ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre le changement climatique. Près d'une décennie plus tard, nous pouvons et devons être fiers des résultats obtenus. Le Gabon a absorbé de l'atmosphère plus d'un milliard de tonnes nettes de dioxyde de carbone. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. Concrètement, le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En Éthiopie, des combats ont été signalés hier au sud de Kobo. De nombreux habitants ont fui cette localité de la région de la Mara depuis qu'elle est tombée samedi aux mains des rebelles du Tigré, Clermont-Régibourg.
Il y a d'intenses combats, j'ai entendu le son d'armes lourdes depuis ce matin jusque dans l'après-midi, a témoigné un habitant de Kobo, réfugié à Waldiga, à 50 km plus au sud. Une source diplomatique a fait état d'affrontements, tandis qu'une source humanitaire a indiqué que d'intenses combats se sont déroulés dans les montagnes de Zobel, situées au sud-est de Kobo. L'armée s'est retirée samedi de Kobo à une quinzaine de kilomètres au sud de la frontière du Tigré pour, selon elle, éviter des pertes massives chez les civils alors que la ville était attaquée depuis plusieurs directions par les rebelles tigréens selon le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed. Les journalistes n'ont pas accès au nord de l'Éthiopie, rendant impossible toute vérification indépendante des affirmations des deux camps. Les réseaux de communication sont aléatoires. Rebelles et troupes gouvernementales s'accusent mutuellement d'être responsables de la reprise des hostilités le 24 août, qui a mis fin à 5 mois de trêve.
En Angola, le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, a remporté la victoire aux législatives de mercredi, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola a recueilli 51,17% des voix selon les résultats définitifs annoncé lundi par la Commission nationale électorale. L'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, premier parti d'opposition, totalise 43,95% des votes exprimés au scrutin. 4 des 16 membres de la commission électorale n'ont pas signé les résultats définitifs, exprimant des doutes sur le processus électoral. Les candidats ont 72 heures pour contester. Au moins 11 personnes ont été tuées lundi à Madagascar après que les gendarmes ont ouvert le feu sur des habitants en colère autour d'une sombre affaire d'enlèvement, John Linden.
Les gendarmes ont tiré sur la foule, a déclaré un député du district du Congo où s'est déroulé l'incident. Mais le médecin-chef de l'établissement où les victimes ont été transportées dit avoir comptabilisé 9 morts sur le coup et 33 blessés, donc 5 décédés une fois à l'hôpital, dont 14 morts au total. Les gendarmes ont, eux, parlé de 11 morts et 18 blessés. Depuis la semaine dernière, la petite ville du Congo est sous le choc. Un enfant albinos a disparu et les autorités ont estimé qu'il s'agissait d'un enlèvement. 4 suspects ont été arrêtés, mais dans la matinée, les habitants se sont rendus devant la gendarmerie et ont demandé qu'on leur remette les suspects, selon le député du district du Congo. Sur la grande île, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement la cible de violences. Plus d'une douzaine d'enlèvements, d'attaques et de meurtres ont été signalés au cours des 2 dernières années, selon les Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les combats entre partisans de forces rivales ont repris mardi à Bagdad, où 23 partisans du leader chiite Muqtada Sadr ont été tués par balle depuis lundi, selon un nouveau bilan fourni par une source médicale. Selon elle, au moins 380 personnes ont été blessées dans les violences dans la zone verte, un périmètre ultra sécurisé, en plein chaos, après que ce leader chiite a annoncé son retrait définitif de la politique. Le couvre-feu a été décrété et Washington appelle au calme, Abdourahmane Dia.
Les États-Unis jugent inquiétantes les informations sur la flambée de violence à Bagdad notamment et appellent au calme et au dialogue en Irak, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. L'Irak est en crise politique depuis les législatives d'octobre 2021, mais la situation a brutalement empiré hier lundi. Des centaines de partisans de Muqtada Sadr ont envahi le palais de la République où siège le Conseil des ministres. Ils ont investi les bureaux, s'installant dans les fauteuils, sautant dans la piscine ou prenant des selfies. Au même moment, les forces de l'ordre tentaient de disperser d'autres manifestants à coups de grenades lacrymogènes aux entrées de la zone verte qui abrite les sièges des institutions et l'ambassade américaine. L'armée a décrété un couvre-feu national, mais le chaos a gagné d'autres régions irakiennes. Depuis près d'un an, les principales forces politiques ne parviennent pas à s'accorder sur le nom d'un nouveau premier ministre. L'Irak n'a donc ni nouveau gouvernement ni nouveau président depuis les législatives de l'an dernier.
L'armée russe a affirmé lundi avoir repoussé des tentatives d'offensive ukrainienne dans les régions de Kherson et Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, tout en assurant avoir infligé de lourdes pertes aux forces de Kiev. Le gouvernement, le commandement sud de l'armée ukrainienne a dit sur Facebook dans la nuit de lundi à mardi que la situation restait tendue dans sa zone d'action, soulignant que l'ennemi a attaqué nos positions à 5 reprises, mais toutes ont été un échec. Par ailleurs, des experts onusiens de l'AIEA sont attendus à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe occupée depuis début mars par les Russes et au centre de toutes les tensions. Des dizaines de millions de Pakistanais continuent de lutter contre les pires pluies de mousson en 3 décennies qui ont fait au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. Un tiers du Pakistan est actuellement sous les eaux, a déclaré lundi la ministre du Changement climatique, Sheri Rahman, évoquant une crise aux proportions inimaginables. Une énorme opération de secours est en cours dans le pays où l'aide internationale commence à lentement arriver. Un homme qui vivait en isolement volontaire depuis près de 3 décennies en Amazonie brésilienne, présumé dernier survivant d'une communauté indigène désormais disparue, a été retrouvé mort le 23 août dans une hutte en terre indigène Tanaro où il vivait, ont annoncé les autorités. Elles présument que l'homme a passé 26 ans seul à errer dans la jungle après la lente disparition des membres de sa communauté déjà très petite au milieu des années 90. Lorsque bûcherons et éleveurs ont accaparé les terres alentour.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Lors de la semaine africaine du climat, ouverte hier à Libreville au Gabon, les pays africains ont appelé à mettre fin à l'injustice climatique. Ils sont responsables entre 4 à 10% des émissions de gaz à effet de serre, mais subissent les plus graves conséquences du réchauffement climatique. Le continent dépense 3% de son PIB pour s'adapter à ses impacts, a dit le ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27 prévue en novembre. Lors de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement africain à Tunis ce week-end, l'association tunisienne Smart Cities a présenté le projet Pôle numérique africain retenu par la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise. L'objectif de ce projet est de connecter l'Afrique au reste du monde par câble sous-marin. La Banque africaine de développement a lancé avec la ville de Bizerte une étude de faisabilité pour la première phase du projet d'un coût d'investissement de 307 millions de dollars. Au Cameroun, le ministère de l'Agriculture a réhabilité la ferme semencière de Bansoa dans la région de l'Ouest qui permettra l'implémentation du projet Pomme de Terre sur la moitié de sa superficie. Une partie a été aménagée pour la multiplication des semences. Le pays produit entre 220 000 et 400 000 tonnes de pommes de terre pour une demande annuelle d'1 million de tonnes. Les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest couvrent 80% de la production.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jackson Muleka porte Besiktas dans le championnat turc.
Oui, grâce à un doublé, l'international congolais de la RDC a permis à Besiktas de s'imposer 3 buts à 1 face à Sivasspor en Super League turque. Pour l'ouverture du score, Muleka a bénéficié d'une passe décisive de son compatriote Arthur Moussouakou. C'est la troisième réalisation pour l'attaquant des Léopards de 22 ans en autant de matchs cette saison. En face, l'international ivoirien Max Alain Gradel a aidé Sivasspor à travers une passe décisive sur la réduction du score signé Dia Saba.
Pierre-Emerick Aubameyang, victime d'un vol à main armée.
Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de l'attaquant gabonais du FC Barcelone. Il va bien, effrayé mais bien, a indiqué une source interne au club. Selon le quotidien El País, au moins 4 hommes ont pénétré dans la maison de l'international gabonais à Castel des Ferves, près de Barcelone, en passant par le jardin. Armés de pistolets et de barres de fer, ils ont menacé Aubameyang et sa femme et ont frappé le joueur. Les voleurs se sont enfuis en voiture après avoir forcé Aubameyang à ouvrir son coffre-fort afin de dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur, détaille encore le journal. Une porte-parole de la police catalane a confirmé l'ouverture d'une enquête au sujet d'un vol avec violence à Castelldefels, mais n'a pas voulu révéler l'identité de la ou des victimes.
Tennis, l'US Open a débuté lundi à New York.
La Russe Anna Kalinskaya est la première qualifiée pour le deuxième tour de ce tournoi new-yorkais. En battant 6-4, 6-3, la Suédoise Rebecca Peterson. Elle affrontera au prochain tour la Française Caroline Garcia ou la Russe Kamila Rakhimova. Repêchée des qualifications chez les hommes, le numéro 1 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev s'est qualifié pour le deuxième tour en écartant l'Américain Stefan Kozlov. 6-2, 6-4, 6-0. Au prochain tour, le Russe de 26 ans affrontera le Français Arthur Rinderknecht, toujours chez les messieurs Andy Murray, ancien numéro 1 mondial, redescendu à la 52e place et vainqueur du tournoi 2012, s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'Argentin Francisco Cerundolo 7-5, 6-3, 6-3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la désignation par consensus des 21 membres du Présidium du Dialogue National Inclusif et Souverain par le CODNI, le comité d'organisation du dit dialogue, divise les participants. Plusieurs corporations ont suspendu leur participation, estimant que le mandat du CODNI prend fin avec la présentation du bilan de ses activités. Selon notre correspondant sur place, je cite, « Contre toute attente, les membres du CODNI se sont imposés dans toute illégitimité pour diriger l'examen du projet de règlement intérieur. » Fin de citation. Ce qui a conduit à la mise en place contestée du présidium qui sera présidé par Gata Ngote Gata, nous dit N'Djamena André Kotmadjingar.
105 partis politiques, 74 associations de la société civile, rejetant en bloc le présidium qui a été mis en place. C'est le même forum que 2018 et 2020 qui va se répéter ici.
Colère et indignation des organisations qui estiment être roulées dans la farine et ont gelé leur participation et menacent de rejoindre les opposants dans la rue.
Nous sommes d'accord avec tous ceux qui ont boycotté les dialogues, les transformateurs, Wakitama, les politico-militaires qui n'ont pas voulu venir. Aujourd'hui, on leur donne raison et nous disons que nous sommes désormais avec eux.
Nous rendons compte que le même système qui a mis ce pays-là à terre veut se maintenir coûte que coûte contre l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter le dialogue que nous qualifions à partir d'aujourd'hui de non-inclusif et de non-souverain. À partir d'aujourd'hui, on fera notre dialogue dans la rue.
Aussi, 11 ordres des professionnels du Tchad qualifient la mise en place de ce présidium de forfaiture et de mascarade et claquent la porte. Hayat Ndiaye est la présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad.
Malgré notre insistance à contribuer à un pays qu'on appelle encore en voie de développement, il n'y a que la place pour les politiques, il y a la place pour les autres corps, mais il n'y a pas de place pour les corps professionnels au Tchad. C'est ce qu'on vient de nous dire. Nous avons décidé qu'il était temps pour les différents corps professionnels de se retirer effectivement de ce dialogue-là.
Asilek Alata, membre politico-militaire signataire de l'accord de Doha, donne raison à ceux qui refusent de cautionner cette mascarade.
Gali peut faire le consensus, ça ne nous pose pas à nous autres, les politico-militaires, un problème. Les politico-militaires qui ont été choisis ont des postes de conseiller. Ils vont conseiller quoi? Où sont les jeunes? N'est-ce pas l'espoir de tout ce peuple-là, c'est les jeunes? Est-ce que c'est sérieux, ça? Évidemment, ça peut froisser les gens et je comprends ceux qui ont quitté la scène.
Pour Abdraman Koulamala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est un vrai dialogue qui commence.
Vous avez vu dans quelles difficultés on a pu mettre en place le présidium. Ce n'est pas un forum bis qu'on a mis en place, mais un vrai dialogue. Alors, ceux qui sont pas là, je ne vais pas dire tant pis pour eux, mais ils ont raté un train de l'histoire et c'est bien dommage.
Le groupe des religieux et des aînés constate avec regret que son appel et ses propositions n'ont pas été pris au sérieux. Banyara Yuyana est le porte-parole du groupe.
La preuve est que la demande de suspension des activités pour permettre la médiation entre le gouvernement d'une part et les forces non participantes au dialogue et les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha, d'autre part, n'a pas été prise en compte par le gouvernement de la République du Tchad. Le groupe de religieux et des aînés s'inquiètent des conséquences qui vont advenir.
Outre les partis politiques, l'ordre des professionnels et les organisations de la société civile qui ont claqué la porte, l'Église catholique menace aussi de se retirer du processus si le bureau du présidium contesté n'est pas modifié à la première heure de la reprise des travaux ce mardi. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Cameroun, la communauté éducative s'inquiète de la situation dans les deux régions anglophones. À la veille de la rentrée scolaire, le 5 septembre prochain, la plupart des élèves, étudiants et universités privées déplacés en zone francophone ne souhaitent pas retourner dans leur localité d'origine. Un reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
Selon l'ONG Human Rights Watch, les exactions et crimes se poursuivent contre les civils dans les régions anglophones. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'éducation de Vastimé, une étudiante anglophone qui réside désormais à Douala.
Je suis originaire de la région du Nord-Ouest. J'ai obtenu mon baccalauréat au village. Je suis arrivé à Douala durant les vacances. Je devrais retourner à Bamenda pour mes études, mais à cause de la crise, je suis contraint de rester ici.
Selon Human Rights Watch, c'est un groupe séparatiste armé attaque régulièrement les écoles qui dispensent les cours en français, ainsi que les civils qui n'observent pas leur appel au boycott de l'école. Mirabel ne veut plus revivre ce climat de terreur cette année.
J'avais peur. Vivre à Bamenda n'est pas facile. C'est difficile. Je suis venue ici parce que c'est une zone en paix. Mes sœurs sont là-bas à Bamenda et ne vont pas à l'école. C'est pour cela que j'ai décidé et j'ai dit à ma mère que je vais venir à Douala parce que je ne voulais pas arrêter mes études à cause de la guerre et des villes mortes.
L'an dernier, les autorités camerounaises ont recensé plus de 120 établissements scolaires incendiés, selon elles, par les séparatistes depuis le début de la crise anglophone en 2016. Un promoteur d'une université privée ayant requis l'anonymat dit avoir payé un lourd tribut depuis 6 ans de conflit.
Nous avons dû quitter Bamenda parce que la vie était devenue inconfortable avec de nombreux kidnappings. Quand les choses allaient bien, nous avions plus de 1600 étudiants et plus de la moitié étaient des francophones et provenaient des régions francophones. J'ai heureusement obtenu l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur d'ouvrir un autre institut ici à Douala. Donc, j'ai dû recommencer à 62, voire 63 ans, quelque chose que je croyais avoir déjà réalisé.
Le ministère de la Défense a démenti les accusations d'exaction contre les civils imputées à l'armée par l'ONG Human Rights Watch. Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest.
Grâce à la mobilisation croissante de nos populations que nous apprécions et des groupes d'autodéfense, nous avons pu ramener la situation à la normale dans plusieurs localités de la région. Mais nous avons encore quelques points de conflit. Mais avec professionnalisme, nos forces de sécurité font de leur mieux pour stabiliser la situation.
En 2019, quelques 850 enfants ont été privés d'école dans les deux régions anglophones, selon l'UNICEF, et plus de 700 000 déplacés internes ne savent plus de quoi demain sera fait. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burundi, des centaines de milliers de jeunes du primaire et du secondaire vont dans quelques jours faire leur rentrée scolaire. Les prix du matériel scolaire ont augmenté d'une façon significative et dans de nombreux ménages, il sera difficile d'envoyer les enfants à l'école. Un reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, qui a tendu son micro à quelques habitants de la capitale économique burundaise.
Si les prévisions du ministère de l'enseignement primaire et secondaire sont suivies à la lettre, le 5 septembre, plus de 5 millions de jeunes burundais vont retourner dans les classes, mais les prix du matériel scolaire ont augmenté, passant presque du simple au double. Mama Chichina est mère de 5 enfants, habitant un quartier au centre de Bujumbura, et l'affirme qu'il lui sera très difficile d'envoyer ses enfants à l'école, surtout qu'elle et son mari n'ont pas de travail pour le moment.
Une douzaine de cahiers de sans-feuilles vaut 23 000 et plus. De 48 feuilles vaut 21 000 et quelques, ainsi de suite. Pour le moment, en tant que mère de 5 enfants qui vont à l'école, c'est vraiment dur. C'est très très dur, c'est très difficile.
Ces paroles de cette mère sont ceux de plusieurs parents à Bujumbura et dans le reste du pays. Ce commerçant assez riche reconnaît qu'avoir le matériel scolaire pour cette année ne sera pas aisé pour plusieurs ménages.
C'est pas facile, je dirais même que c'est très difficile parce que on ne va pas trouver de l'argent juste pour acheter le matériel scolaire pour nos enfants. C'est le grand problème que nous avons. En général, il y a la hausse généralisée des prix, raison pour laquelle on ne voit pas comment nous allons sortir de ce problème, parce que c'est vraiment très difficile à sortir à cause de cette hausse généralisée des prix. On se voit réunir parce qu'il n'y a même pas le carburant pour acheter même le haricot qui est l'aliment de base de tous les Burundais.
Cet autre habitant de l'intérieur, mais qui est arrivé à Bujumbura ce lundi et qui a requis l'anonymat, affirme que cette rentrée s'annonce mal pour les parents.
Ça demande des moyens.
surtout si je commence par les cahiers, un cahier de 100 feuilles coûte actuellement entre 1 800 et 2 000. Chacun te demande au moins 50 000. Si je multiplie par 5, ça fait 50 000. Sans ajouter les uniformes, les chaussures, mais les valeurs aussi, tu dois payer dès la rentrée scolaire. Avant, si tu avais une petite vache, on vendait, mais même maintenant, c'est difficile. Puis grimper, du jour au jour, te déplacer aussi, c'est un problème. Je pense que notre gouvernement va nous aider.
C'est vrai que le gouvernement burundais a adopté depuis plusieurs années une politique de gratuité de l'enseignement public. Mais est-ce que demain, les cahiers seront gratuits dans les écoles primaires et secondaires? Cette question, pour le moment, n'a pas encore sa réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon, sur Ogoué FM, à Libreville.
Libreville, capitale africaine du climat cette semaine, à moins de 3 mois de la COP27 en Égypte, les pays africains ont appelé lundi à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2. Le gaz carbonique, mais paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique. L'événement est conçu pour créer une dynamique avant la pré-COP27 qui se tiendra en République démocratique du Congo et la COP27 en Égypte. La semaine africaine du climat prévoit un agenda très chargé jusqu'au 1er septembre. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
En marge des activités de la semaine africaine du climat, les défenseurs de l'environnement donnent le ton au rendez-vous qui s'ouvre ce mardi par une marche pacifique dans les rues de Libreville. Séraphin Ekemi, responsable de l'ONG Fondation Villageoise de Gestion de la Nature.
Cette marche a double connotation. La première, c'est interpeller la communauté internationale sur les dangers que la planète est en train de subir par rapport au changement climatique. Bon, maintenant, la deuxième, c'est que nous voulons impliquer la population gabonaise sur la protection de l'environnement à travers la réduction des émissions de CO2.
Depuis quelques jours, l'événement accueille ses premières délégations. L'ambition affichée par les participants est de parvenir à des positions communes sur la justice climatique. Ahmed Sekou Diallo est président de la plateforme climat du Mali.
La position, c'est pour une meilleure justice climatique pour nous les Africains qui polluons moins, qui ne polluons même pas du tout, mais qui vivons les effets néfastes du changement climatique. Donc il faut passer à l'action. Trop de paroles. Maintenant, nous disons trop, c'est trop, il faut passer à l'action.
Nikes Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
Quid de la question de l'adaptation? Et donc nous sollicitons, nous exigeons et nous recommandons une plus grande transparence sur les fonds qui devraient être mis dans le cadre de l'adaptation. Fini les promesses, il faut passer à la mise en œuvre telle que recommande Marrakech.
Étape clé avant la COP27 prévue en novembre prochain en Égypte, la Semaine africaine du climat veut faire progresser l'action climatique. Professeur Lee White, ministre gabonais des Eaux et Forêts.
Et si le voix de l'Afrique monte pas au créneau pour la justice climatique, l'Afrique risque de tomber dans la plus grande crise qu'on a jamais vue, avec des centaines de millions de réfugiés climatiques.
Un rappel, les efforts du Gabon pour cette cause lui ont déjà valu plusieurs récompenses. Récemment, le pays a reçu 17 millions de dollars, environ 9,3 milliards de francs CFA, pour les efforts continus entre 2016 et 2017 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la préservation de son couvert forestier. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale gérée par les Nations Unies. Il Ismaël Obiangze pour VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sevilla, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.